France Culture, il est encore midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec ces deux France donc, qui se dessinent pour la fin de la semaine. L'une verrouillée entre 21h et 6h du matin quand l'autre essaiera, si les taux de circulation de coronavirus le permettent, de continuer sa vie normale. Au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de la mise en place de plusieurs couvre-feux nocturnes dans plusieurs métropoles, nous tâcherons de comprendre donc la stratégie des autorités pour faire face à la recrudescence de l'épidémie et tenterons d'en apprécier l'acceptabilité par la population.
Et toujours dans votre journal, Thomas Cluzel, nous irons dans le cortège de la manifestation nationale. Aujourd'hui à Paris, à l'appel de plusieurs syndicats hospitaliers et collectifs de soignants pour réclamer des embauches massives et immédiates.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Rachid Digoua, président du collectif Interbloc, représentant les infirmiers des blocs opératoires. Emmanuel Macron recevait ce matin à l'Elysée les syndicats de police après une longue série d'agressions perpétrées ces derniers jours contre les forces de l'ordre. Enfin, le Brexit au menu du Conseil européen qui s'ouvre cet après-midi. Les 27 chefs d'État et de gouvernement s'inquiètent alors que les négociations patinent. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'universel en plein désarroi. Le débat continue sur l'antenne de France Culture avant une grande journée qui sera consacrée à cette question demain avec notre invité, l'essayiste Pascal Bruckner. Il s'élève contre la bien-pensance de gauche, contre la montée en puissance des discours dits néo-féministes et décoloniaux. On en parlera avec lui dans une vingtaine de minutes.
Rarement, sans doute, l'expression métro, boulot, dodo n'aura donc semblé aussi proche de la réalité, du moins pour les quelques 20 millions de Français qui, à Paris et dans la région Île-de-France, mais aussi Grenoble, Lyon, Lille, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse, seront contraints à partir de samedi prochain et pour 6 semaines de rester cloîtrés chez eux dès 21h, sous peine de se voir infliger une amende de 135 € et peut-être même davantage. Ou quand le président Emmanuel Macron, qu'il y a quelques mois encore proposait de transformer la France et de se réinventer, aura fini par miser cet automne sur la seule autorité de l'État pour contrer le virus en ordonnant un couvre-feu. Alors avec ce qu'il porte de symbole historique, le terme choisi plutôt par exemple que celui de confinement nocturne témoigne évidemment de cette volonté affichée aujourd'hui de l'exécutif d'affronter ouvertement la réalité et après l'annonce choc de la veille, donc eh bien charge aujourd'hui au gouvernement de faire preuve cette fois-ci de pédagogie. Dans un peu plus d'une heure, le Premier ministre Jean Castex, accompagné de ses ministres de la Santé, de l'Intérieur, de l'Économie et du Travail, tiendra une conférence de presse pour détailler toutes les nouvelles mesures. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors hier soir, à l'issue de son intervention télévisée, le chef de l'État a lancé « Arrêtons dans le pays des Lumières et de Pasteur d'avoir sans cesse des débats, tenons-nous-en aux faits et mobilisons-nous » avant de conclure en estimant qu'une nation de citoyens solidaires et plus résilientes est en train de remplacer un pays d'individus libre, fin de citation. Ou quand le grand basculement social du coronavirus ne pouvait pas être plus explicite, reste pire que le choix des autorités présentées comme dictées par les exigences sanitaires n'en est pas moins désormais potentiellement explosif.
Contraindre et convaincre, c'était l'ambition du message du chef de l'État hier soir. Contraindre en expliquant que dans les grandes métropoles où le virus se propage, nous allons devoir respecter un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Un couvre-feu qui n'est pas une sanction, mais une recommandation pour nous protéger individuellement et collectivement. Un couvre-feu pour limiter le brassage de population et qui s'appuie sur la responsabilisation de chacun d'entre nous. Message surligné encore ce matin sur l'antenne de France Info par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Ce qu'on vise avec ce couvre-feu, vous le savez, c'est les rassemblements privés, parfois festifs, qui sont aujourd'hui une source importante, si ce n'est majeure, de contamination. Évidemment, il n'y aura pas un policier derrière chaque Français. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu depuis le début de cette crise. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que le président de la République a rappelé hier, c'est aussi sur la responsabilité individuelle des Français qu'on parie et qu'on investit.
Donc on fait confiance aux Français ?
Et moi, je vais vous dire, on peut leur faire confiance. Parce que qu'est-ce qu'on voit depuis le début de cette crise, c'est qu'ils ont été extrêmement résilients, comme on dit. Ils ont fait beaucoup d'efforts. On a confiance dans la capacité des Français à être responsables collectivement.
Un couvre-feu qui est donc un appel à la raison à destination des jeunes, notamment, on retiendra ces mots, c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. Emmanuel Macron sent bien là toute la difficulté du nouvel effort qui est demandé à la jeunesse, comme aux salariés de la restauration, de l'hôtellerie, du spectacle et de l'événementiel. Reste que la trajectoire qui est présentée s'annonce difficile et longue, d'où cet appel un peu vain, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Emmanuel Macron ne cache pas que cette crise sanitaire pourrait durer jusqu'à l'été 2021, au moins, cette fois, le message est clair et pleinement assumé par le chef de l'État.
Merci Pierre Neveu. Alors toute la question maintenant est de savoir dans quelle mesure ces nouvelles dispositions seront acceptées et respectées. A-t-on atteint les limites de l'acceptabilité? Peut-on imaginer une sorte de gilet jaunisation de la crise sanitaire, une colère telle qu'elle viendrait à s'exprimer massivement dans les rues? Pour le politologue et chercheur au CEVIPOF Bruno Cotres, on n'en est pas encore là, il le dit à Rosalie Lafarge.
On voit bien que dans les catégories de Français qui sont les plus concernés par les mesures qui ont été annoncées hier, je pense en particulier aux métiers de la restauration, du spectacle, on voit bien qu'on a l'impression qu'on leur a donné un coup de massue. Donc effectivement, il y a sans doute des segments de la population qui sont aujourd'hui dans un fort état de mécontentement. Il y a des segments de la population, il y a peut-être aussi un sentiment de colère avec l'idée que tout n'a pas été fait correctement pour nous préparer à cette deuxième vague, alors que nous avions des mois pour nous y préparer. Mais de là à avoir un mouvement social qui prendrait corps de manière comparable à ce qui a été le mouvement des Gilets jaunes, je ne crois pas qu'on en soit là, d'autant qu'il y a un très haut niveau de conscience chez les Français, que la situation sur le front sanitaire est préoccupante. Et donc c'est plutôt ça, me semble-t-il, aujourd'hui, le climat de l'opinion, un peu d'être désemparé et déboussolé, et pas forcément de traduire ça dans une colère qui viendrait s'exprimer dans des manifestations, dans des mouvements sociaux.
Voilà, Bruno Cotres, chercheur au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, il répondait à Rosalie Lafarge. Alors j'évoquais tout à l'heure l'explication de texte prévue d'ici une heure avec la conférence de presse de Jean Castex. Une communication gouvernementale d'emblée parasitée ce matin par des perquisitions qui ont eu lieu au domicile et bureau du ministre de la Santé, Olivier Véran, et de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise sanitaire par les autorités, précisément. Disons tout de suite que la date de ces perquisitions était fixée depuis longtemps. Et puis au même moment, d'autres perquisitions ont été menées, cette fois-ci chez l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ou bien encore l'ex-porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, mais aussi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Alors tandis que la crise a fait basculer dans la pauvreté des centaines de milliers de personnes supplémentaires, autre annonce hier soir du chef de l'État, Emmanuel Macron, a promis une aide exceptionnelle de 150 euros, augmentée de 100 euros par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Et puis pour réduire un peu plus la pression collective, le président a également préconisé 2 à 3 jours de télétravail par semaine dans les entreprises où cela est possible. Ou dit autrement, Catherine Pétillon, pas question d'en faire une règle nationale.
Pas de télétravail généralisé comme lors du confinement, mais une nouvelle incitation à davantage y recourir. Emmanuel Macron a préconisé 2 à 3 jours de travail à distance par semaine dans la mesure du possible afin de réduire un peu la pression collective, tout en estimant que le travail n'était pas, je cite, la panacée. Pas de réel changement donc sur ce terrain. Le télétravail est encouragé mais pas obligatoire, ce qui désormais pourrait être possible avec l'état d'urgence sanitaire. Emmanuel Macron a renvoyé à des négociations au plus près des entreprises avant de résumer ainsi la situation. Il faut qu'on réussisse à réduire nos contacts un peu inutiles, parfois les plus festifs, mais que l'on continue à avoir une vie sociale au travail, à l'école, dans les entreprises ou les associations. Le président de la République cherche un équilibre entre réponse sanitaire et maintien de l'activité économique. Limiter ses sorties hors du travail, reste à savoir quelle sera l'acceptabilité sociale de ces annonces.
Toujours dans son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé que l'application de traçage Stop Covid serait relancée le 22 octobre prochain sous le nom Tous anti-Covid. La réponse médicale et sanitaire reste, elle, inchangée. En revanche, 7 jours d'isolement imposés aux personnes contaminées et à leurs contacts. Enfin, le président a promis une nouvelle stratégie de tests pour réduire drastiquement les délais. La clé tiendrait dans la distribution massive de tests antigéniques dont les résultats peuvent être obtenus en quelques heures, voire d'autotests. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte qu'une étude publiée hier par les entreprises du médicament nous apprend que la France ne serait pas assez attractive aujourd'hui pour attirer les essais cliniques sur son territoire. 13% des essais mondiaux sont actuellement réalisés dans l'Hexagone. C'est moins, par exemple, que l'Allemagne, le Royaume-Uni ou bien l'Espagne. Or, c'est justement la réalisation de ces essais qui permettent ensuite d'accélérer la mise à disposition des médicaments ou des vaccins sur le territoire. Je vous propose d'écouter Frédéric Collet, président du LEM, joint au téléphone par Marie Viennot. Il pointe notamment, vous allez l'entendre, les délais administratifs.
La France est aujourd'hui le 4e pays européen en matière d'attractivité sur la recherche clinique. Et la période du Covid a montré que la France était passée 2e justement dans le domaine des essais cliniques sur le vaccin. parce que dans cette période-là en particulier, deux aspects ont joué beaucoup. D'une part, la réduction drastique de délai et d'autre part, la collaboration entre les acteurs. La validation de certains essais a pu se faire en 3 semaines quand normalement il faut plus de 200 jours. Maintenant, certains de ces facteurs ne sont pas pérennes, c'est-à-dire que nous pouvons accélérer bien sûr. Notre objectif, c'est d'arriver à une validation en 120 jours. Donc par rapport à plus de 200 aujourd'hui, donc de réduire disons de moitié.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce temps long, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de la précaution ?
J'aimerais vous dire oui, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ce temps long est un temps qui est principalement organisationnel et administratif. Il est évident qu'on doit prendre toutes les précautions et justement tout ce qui se dit aujourd'hui sur le développement du vaccin Covid le souligne et c'est essentiel. Et en matière de qualité, c'est ce que je disais, la France a une vraie excellence. Mais le temps dont on parle ici est un temps qui n'est pas un temps qualitatif, c'est un temps administratif et c'est un temps procédurier organisationnel.
Voilà, Frédéric Collet, président du LEM, la Fédération du Médicament. Il répondait à Marie Viennot. Et c'est donc en pleine crise sanitaire que plusieurs syndicats hospitaliers et collectifs de soignants ont décidé de se mobiliser aujourd'hui, une manifestation nationale pour la défense du service public de santé. Tout en pointant l'épuisement des personnels soignants, les syndicats réclament des embauches massives, immédiates, de même qu'une revalorisation significative des salaires. Des revendications qui sonnent tout particulièrement au moment même où la deuxième vague de Covid-19 est en train de submerger les établissements hospitaliers. Et puis, des revendications qui résonnent aussi et surtout comme un lointain écho de ces cris d'alarme qui l'an dernier déjà montaient des cortèges pour dénoncer le manque de personnel, de lits et de matériel. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'école militaire à Paris, d'où la manifestation partira dans quelques minutes pour rejoindre le ministère de la Santé. En clair, Tara, syndicats et collectifs entendent répéter au ministre Olivier Véran que le Ségur de la Santé, qui devait apporter des réponses concrètes et rapides à toutes ces demandes, est loin d'avoir été à la hauteur.
Oui, ils sont fatigués, Thomas, épuisés même de répéter depuis le printemps dernier que l'hôpital est exsangue et qu'il faut un choc d'attractivité pour rattraper les personnels qui sont tentés de fuir. Les syndicats avaient accueilli assez froidement le Ségur de la Santé, mais ils s'étaient tout de même investis. Ils avaient espéré qu'en termes d'effectifs et de salaires, notamment, ils seraient enfin entendus. Mi-juillet, les accords du Ségur ont été signés, pas par toutes les centrales, mais ils s'appliquent quand même. Or, il reste surtout, pour l'instant, quasiment théorique. Tous demandaient 300 euros d'augmentation par mois. Le gouvernement leur a donné moitié moins et ces augmentations sont progressives. Autrement dit, on ne les voit pas encore sur toutes les fiches de paye. Plus grave, disent aujourd'hui les manifestants qui sont là, ce sont les conditions de travail qui continuent à se dégrader. Le gouvernement a créé avec le Ségur 15 000 nouveaux postes, mais comme infirmiers et aides-soignants désertent ces métiers mal payés, eh bien les hôpitaux n'arrivent plus à recruter. En ce moment, il manque 275 postes dans les hôpitaux marseillais, 150 aux hospices civils de Lyon et 450 à la PHP, malgré des campagnes de recrutement intenses. Alors les manifestants mettent en garde, ils ne sont pas prêts, disent-ils, à recommencer les sacrifices qu'ils ont faits pendant la première vague du Covid. D'abord, tous n'ont pas reçu l'intégralité de la prime Covid, en particulier ceux qui sont venus en renfort de province, et ils en ont été outrés. Et puis le fait que le Covid-19 ne soit pas systématiquement reconnu comme une maladie professionnelle pour les 31 000 soignants qui se sont pourtant contaminés en allant sur leur lieu de travail, tout ça c'est très mal vécu. On se demande donc comment va faire le système pour ne pas craquer, Thomas, sous le poids des 1100 nouvelles hospitalisations dues justement au Covid-19 que la France enregistre en ce moment chaque jour.
Et pour continuer donc d'évoquer cette question du mal-être des salariés du secteur de la santé, mais aussi des économies réclamées aux hôpitaux dont les finances sont déjà plombées par les dépenses liées au Covid, vous vous trouvez en ce moment même, Tara, avec le président du collectif Interbloc qui représente les infirmiers des blocs opératoires, Rachid Digoua. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je précise que vous travaillez en l'occurrence depuis 10 ans comme infirmier de bloc opératoire à Chalon-sur-Saône. Première question, monsieur Digoua. Depuis quelques jours, on le sait, le nombre de cas de contamination au Covid-19 explose en France, en moyenne 20 000 par jour. Pour autant, la proportion de ceux pour qui la maladie représente véritablement un danger reste faible. Le taux de mortalité de ce virus est aujourd'hui de 0,6%. C'est ce qu'a encore rappelé hier soir Emmanuel Macron. Comment dès lors expliquer le risque aujourd'hui de saturation des hôpitaux ?
Ben c'est très simple. Hein. Après la première vague, il y a eu une grosse reprise d'activité, notamment chirurgicale. Hein. Les patients qui ont été déprogrammés. Et aujourd'hui, c'est des patients qui sont lourds, qui nécessitent de la réanimation et qui occupent des lits en réanimation. Donc si vous voulez Vous rajoutez à ça l'épidémie de grippe qui va sévir certainement cet hiver. C'est pour ça que le gouvernement est plutôt inquiet au niveau des places de réanimation qui vont manquer. Et malheureusement, ils n'ont pas tiré toutes les leçons de la première vague, puisque plutôt que d'ouvrir des postes en réanimation et recruter du personnel, ils sont restés sur les 5000 lits et proposent même 4000 ouvertures de lits à la carte. Mais à la carte, c'est très compliqué puisqu'ils n'auront pas le personnel à mettre en face. Donc ça va être très compliqué pour le gouvernement à gérer.
Il faut ajouter, Thomas, aussi, et je m'adresse aussi à notre invité, que sur les 5000 places de lits de réanimation qui existent en France en général, il y avait quand même à peu près 10% de ces places qui étaient déjà fermées avant la crise du Covid, non ?
Bien sûr, puisqu'il y a un gros manque de médecins anesthésistes réanimateurs et de professionnels d'infirmiers qui travaillent dans ces services-là. Donc c'est très 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 compliqué à gérer.
On va parler un peu gros sous aussi avec vous, oui. Monsieur Digois. Je parlais tout à l'heure des augmentations de salaire qui sont réclamées depuis un an et demi par l'ensemble de votre profession, les agents hospitaliers. Le gouvernement en a accordé moitié moins, 180 euros d'augmentation par mois. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Probablement pas. Et est-ce que vous voyez cet argent sur vos fiches de paye ?
Alors déjà, on est très très loin du compte, hein, puisque comme vous l'avez rappelé, le socle commun, c'était minimum 300 euros net pour tous les personnels. Donc là, comme vous dites, on est moitié moins. Et surtout, comme je vous le précisais tout à l'heure, là, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas du tout la revalorisation sur nos feuilles de paye. Et c'est en deux fois 90 et une fois 93, pour faire 183 pour être précis. Mais on est très très loin du compte. Et aujourd'hui, si vous voulez, le gouvernement nous méprise une fois de plus.
Et vous, en province, donc en particulier, vous n'avez rien vu comme augmentation ?
On n'a rien vu, et a priori, ce serait sur la feuille de paye du mois de novembre.
Oui. Donc à Paris, il y a eu quelques augmentations de salaire. On voit que c'est peut-être encore insuffisant. À Chalon-sur-Saône, vous êtes mandaté par la CGT pour participer au comité technique d'établissement et vous regardez tout en ce moment les budgets de l'année à venir.
Exactement.
Est-ce que votre hôpital se porte à peu près bien ou est-ce qu'il a été très impacté par la crise ?
On a été très très impacté au niveau finance, hein, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu un manque d'activité lié à la première vague. Hein, donc c'est une rentrée d'argent, hein, puisque les hôpitaux doivent être rentables. On a tous compris ça. Et si vous voulez, on a quasiment doublé notre déficit. Donc les années à venir vont être très critiques, notamment puisqu'on sait très bien que ce qui intéresse les établissements, c'est dégraisser la masse salariale et demander des efforts au personnel, donc demander des efforts supplémentaires par rapport à tout ce qu'on a vécu cette année.
Le déficit de votre hôpital est d'environ 9 millions d'euros.
9 millions d'euros, oui.
Et c'est aussi attribuable aux augmentations de matériel.
Exactement.
Du prix des matériels.
Quand on voit aujourd'hui les profits qu'on fait, notamment sur les masques qui étaient à une certaine époque à 7 centimes et qu'on trouve aujourd'hui sur le marché à 90 centimes. Les tenues, les surblouses, nous on a des tenues en papier au bloc opératoire et maintenant le prix qui est monté à 3 euros alors qu'avant on était à peu près à 30 centimes d'euros. Donc c'est des comptes supplémentaires à rajouter et des frais supplémentaires à rajouter aux établissements.
Aujourd'hui on parle d'une pénurie d'un certain nombre de matériel, par exemple des gants. Est-ce que c'est vrai ? Vous confirmez ?
Nous on confirme, on a une pénurie de gants, notamment de gants chirurgicaux, de gants de premier recours, on va dire, sur les soins standards. Et sur les blouses chirurgicales, il y a énormément de tensions, notamment nationales. On a des retours des collègues des autres hôpitaux où c'est très compliqué. Et ce qui nous fait dire que si on a plus ce matériel-là, bah peut-être qu'on va devoir déprogrammer de la chirurgie à cause de ça.
En plus du Covid Si on revient sur une vision un peu plus générale, l'ONDAM, l'augmentation nationale des dépenses de santé, pour le PLFSS, donc le projet de budget de la sécurité sociale de l'année prochaine, normalement il doit augmenter de plus de 7%. C'est quand même un chiffre important, le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il fait des efforts. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Mais malheureusement, dans ce chiffre, il y a les augmentations de salaire liées après le Ségur aux revalorisations salariales. Donc si vous voulez, le reste à charge pour l'hôpital après, ça va être des miettes.
Des miettes, c'est-à-dire ?
On va tourner comme au départ à peu près à 2,4, 2,5%.
D'augmentation des dépenses.
D'augmentation.
Ça, c'est pas suffisant.
Non, on est très loin du compte, puisqu'au départ, on demandait si on voudrait que les hôpitaux fonctionnent au minimum, il fallait qu'on soit au-delà de 5%, sans compter les revalorisations salariales. Donc, si vous voulez, tous les ans, on est très loin du compte, et ça fait des années que ça dure, et c'est pour ça aujourd'hui que la crise a mis en lumière tout ce manque de moyens. C'est assez impressionnant.
Aujourd'hui, là, on est à l'hôpital militaire. Il n'y a pas énormément de monde autour de nous, il faut être honnête. Il y a pas mal de syndiqués qui sont là. Est-ce que vous pensez que les personnels n'ont plus la force de descendre dans la rue ?
Alors, je pense que les personnels sont fatigués, ça c'est certain. Mais il y a aussi beaucoup de plans blancs qui ont été déclenchés dans les hôpitaux avec des réquisitions qui tombent. Nous, on sait que dans les blocs opératoires, il y a énormément d'assignations pour faire tourner les blocs. Et aujourd'hui, c'est ce qui bloque aussi les personnels et, on va dire, le droit de grève en général.
Mais vous pensez qu'ils sont quand même combatif.
Bien sûr, on a d'ailleurs sur notre page, on a beaucoup de retours de collègues qui font des photos et qui nous soutiennent. Donc il y a un retour quand même du terrain qui est assez important. Oui.
On sait que le gouvernement va quand même regarder l'ampleur de la mobilisation.
Bien sûr, on sait qu'il regarde.
Et ce sera le dernier mot.
C'est pour ça qu'on est là, puisque.
Ouais. Merci Rachid Digua, président du collectif Interblog, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Tara Schlegel ainsi qu'à Raymond Albouy pour les moyens techniques. Après le confinement, après le déconfinement, mais aussi la limitation de déplacement des fameux 100 km, sans oublier aujourd'hui le port obligatoire du masque dans l'espace public, les policiers n'auront pas manqué d'occasion ces derniers mois de faire le tampon sur le terrain, et ce sera encore le cas évidemment avec l'entrée en vigueur des fameux couvre-feu nocturne. Alors il se trouve que les syndicats de police étaient reçus ce matin à l'Elysée. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez sur place. En réalité, les policiers n'ont a priori pas encore véritablement reçu d'instructions liées donc à ces confinements nocturnes. Et pour cause, Anne, puisque l'objet de cette réunion, la toute première depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, portait en réalité sur la protection des forces de l'ordre au moment même où les agressions contre les agents se multiplient sur le territoire.
Oui, plus de 2 heures de réunion en présence du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Les syndicats de police, qui ont déjà obtenu de belles assurances budgétaires cette semaine, sont ressortis satisfait, une proposition de loi sur la table, celle du député LREM Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Elle devrait permettre de mieux sécuriser les policiers sur le terrain avec de bonnes pistes, selon Olivier Varlet, le secrétaire général de l'UNSA Police.
Des réponses concrètes ont pu être apportées à nos questions. La demande de floutage des fonctionnaires de police quand ils sont sur les images télévisées ou aussi sur les réseaux sociaux. Trop souvent, nos collègues maintenant sont reconnus.
Autre demande phare, celle d'un observatoire de la réponse pénale qui reposerait sur 3 critères selon le syndicat Alliance, la peine encourue, la peine prononcée et la peine réellement effectuée. Fabien Van Emmelric est le secrétaire général d'Alliance.
Tout à chacun, les policiers évidemment parce qu'ils sont confrontés à la réalité du terrain, mais le citoyen lambda doit savoir ce qui se passe au sein de sa justice, parce que lors de repas entre amis ou entre familiaux ou autres, tout le monde dit la même chose, c'est le leitmotiv récurrent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la justice qui ne suit pas.
Le chef de l'État se serait montré ouvert à cette demande et une autre rencontre sera organisée ces prochaines semaines pour faire un état des lieux de tous les dispositifs évoqués ce matin.
Merci Anne Fauquemberg.
Quelques mots encore, Thomas Cluzel, du menu du Conseil européen qui s'ouvre cet après-midi. Brexit.
Oui, alors que les négociations patinent, les 27 chefs d'État et de gouvernement s'inquiètent d'un possible no deal. Pour l'heure, le bras de fer pourrait se résumer ainsi: pour laisser aux Britanniques l'accès au marché unique sans quota ni droit de douane, comme c'est le cas aujourd'hui et comme les Britanniques le souhaitent. Les Européens veulent, eux, des garanties sur la qualité des produits exportés, mais aussi sur le mécanisme qui réglera les litiges, et exigent par ailleurs de garder leur accès aux zones de pêche britanniques les plus poissonneuses d'Europe. Or, sur ce dernier dossier, celui de la pêche, donc, seule une dizaine de pays membres en réalité sont concernés. D'où la volonté aujourd'hui des Britanniques d'essayer sur ce sujet d'enfoncer un coin dans l'unité des Européens. Mais ils n'y arriveront pas, veut croire Thierry Breton, le commissaire français au marché intérieur.
Nous, on est très clair. On n'a absolument pas varié depuis le début. La pêche, les services financiers, le marché intérieur font partie de l'ensemble des éléments qui sont à négocier aujourd'hui. Et nous négocions, nous, un tout. On n'a pas changé. Alors bien sûr, on voit bien, vous savez, l'Europe n'est pas naïve. Sans doute que les négociateurs britanniques ont peut-être le secret espoir que, en mettant en avance telle chose plutôt que telle autre, ils pourront diviser les Européens. Je vous le dis à votre micro, ils ne nous diviseront pas. Et donc, ce sera à prendre ou à laisser. Alors qu'il y ait des tentatives de dernière minute, on en a vu d'autres, hein. On a vu aussi une capacité assez surprenante de renier sa parole. Ça a un peu surpris. Ça a valu du reste de la part de la présidente de la Commission de saisir les instances pour aller contre cette décision unilatérale, qui est assez inédite dans l'histoire du reste, je crois, du peuple britannique, qui l'a vécu peut-être aussi comme tel. Mais enfin bon, chacun est maître de ses tactiques de négociation.
Voilà, Thierry Breton, commissaire français au marché intérieur. Il répondait à Angélique Boin. Sans même prendre la peine d'invoquer un quelconque risque lié à l'épidémie de Covid-19, la Thaïlande a décidé ce matin de durcir le ton face au mouvement pro-démocratie. Les autorités ont promulgué un décret d'urgence qui interdit les rassemblements de 5 personnes et plus. Enfin, une soirée inédite aux États-Unis à 19 jours de la présidentielle. Joe Biden et Donald Trump devaient se retrouver aujourd'hui à Miami pour leur second débat télé. Sauf que le candidat républicain a depuis été testé positif au coronavirus. Du coup, les deux hommes répondront ce soir en direct aux questions des lecteurs, mais chacun sur une chaîne différente. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore chargé avec des averses du Grand Est au Massif Central et du Nord-Est de Midi-Pyrénées jusqu'aux Alpes. Sur le reste du pays, des Hauts-de-France à la façade atlantique et l'ouest de l'Occitanie, l'après-midi s'annonce plutôt calme avec alternance de passages nuageux et d'éclaircies, excepté près de la Manche où de fréquentes averses continueront de circuler. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.